Albert Londres, chez les fous, chapitre 12, quatre dames élégantes. Ce matin, j'ai rendu visite aux payantes. Ce sont des dames qui ont de quoi et qui ne vont pas passer leur folie dans les quartiers des mal peignés. On peut être folle, on sait tenir son rang. Essuyons nos pieds, nous entrons chez les démentes à bas de soie. Madame, je vous présente mes hommages. La dame était à la porte de son petit salon. C'était une personne distinguée, grande et brune, robe noire, souliers vernis, boucle de strass. 35 ans, sans être poli. Faites-moi l'honneur, monsieur, de vous asseoir dans ce fauteuil. C'est sans doute à monsieur le procureur de la République que... Oh non, madame, c'est à son substitut? Pas davantage. Vous êtes l'envoyé des galeries des dames, alors? J'ai commandé une chemisette, 2 combinaisons de soie, 1 paire de souliers de ville, 20 écheveaux de soie, pauvres mains, et 5 mètres de charmeuse. Les souliers de ville ne sont pas de ma pointure. Vous me facturez la chemisette, 120 francs, alors qu'elle était portée 98 sur le catalogue. Votre charmeuse est bien. Je paierai pour la charmeuse, mais les combinaisons... Elle part dans sa chambre et rapporte les combinaisons. Ce sont des combinaisons pour les cuirassiers de Reichshofen. Je suis grande, mais je suis mignonne. J'ai taille mannequin, monsieur. Je suis faite au moule. Vous m'envoyez des sacs. Ces combinaisons ne sont pas pour sœur Gabrielle Latour. Si hier cette sœur ne m'avait servi de la cervelle au lieu de rognon et du fromage de chair humaine, en place d'un petit flan entier, je pourrais lui faire don des combinaisons. Touchez-les. Ce n'est pas de la soie, c'est du beurre. Madame Amélie Parqueret, veuve de son mari, qui n'a pas laissé plus d'argent que de regrets. Or, la santé de Madame Amélie Parqueret exige un vin tonique, des viandes saignantes et de vieilles bouteilles. Le 17 novembre, on m'a servi 3 boulettes de restes, des restes de folles de là-bas, qui ne savent pas manger dans la vaisselle, une sardine inférieure, du riz pierreux et des châtaignes pour me cimenter le sang. Or, une autre fois, Madame Amélie Parqueret, veuve non joyeuse, demande que l'on ne se livre pas sur elle à des pratiques d'auscultation épidermique, de plus que dans le jardin, son fauteuil soit placé de telle sorte qu'elle n'ait plus à redouter les nausées que lui occasionne le fauteuil balançoire de Madame Urbain. Et je m'oppose à ce que l'internée suisse, Madame Verming, me joue à tout l'instant sur la tête la marche funèbre de Chopin. Madame, j'ai bien l'honneur... Je me suis levée. Madame Amélie Parqueret s'agriffe à mon bras. Et je demande d'être séparée à table de Madame Zémandel, dont je ne puis supporter l'odeur physique délétère, le nez en clarinette, le corsage épinard et la poitrine désormais vide. J'ai pu retirer mon bras. Elle m'a saisi au poignet. Et j'offre une prime de 320 ducats à l'homme qui s'en ira là-bas, au cimetière, sur la tombe de feu Parqueret, mon époux. Et pendant une nuit entière, alors que ululeront les chouettes, lui fera à la lueur d'une lanterne sourde de terrifiantes grimaces au fond de sa juste tombe. J'ai pu m'enfuir de l'autre côté du jardin. La féroce veuve, accoudée à sa fenêtre, me fait des signes. Je disparais dans un pavillon. Mademoiselle Escan m'attend. Cela sent bon ici. Dans un salon, une jeune fille est debout. Son attitude est celle qu'elle aurait en dansant une gavotte. C'est une dépée, une démence précoce. Et sa folie est à forme de maniérisme. Elle vient au devant de moi, glissant en cadence. À plusieurs reprises, elle corrige d'un mouvement de pied une traîne imaginaire qui la suit mal. Son bras droit levé fait une anse. Son petit doigt, qu'elle affecte de détacher des autres, domine tout le sujet qu'elle compose. À 3 pas de moi, elle plonge en un profond salut de cour, puis elle se redresse et s'évente avec un éventail qu'elle n'a pas. Ses mouvements dégagent le parfum dont elle s'inonde, 6 ou 8 flacons par mois. Un sourire changeant passe légèrement sur sa figure, comme une eau limpide, mais diversement colorée glisserait sur une plaque de verre. Tout à coup, l'eau ne glisse plus. La force expressive du visage se concentre dans les yeux. La jeune fille me regarde en coulisses, recule sur la pointe des pieds, puis, ayant mesuré la distance, doucement de ses 2 mains, elle me jette comme un cil. Alors elle éclate de rire. On ne règle pas mieux une scène au foyer de la danse. Je m'incline, elle s'incline, je pars. Nous n'avons pas échangé un mot. Le docteur est dans le couloir. Nous pénétrons dans une autre chambre. Assise, sa tête posée mélancoliquement sur son poing fermé, une femme blonde, vêtue de vert, une croix d'or pendant à son cou, regarde le tapis. Une religieuse est avec elle. « Comment allez-vous ce matin, Madame Germaine ?»«
Docteur,
il ne veut plus me parler. » Le docteur demande à la sœur. « Elle pense encore à son tapis ?»«
Tout le temps, docteur. »
Hier, nous sommes restés dans l'autre chambre. Toute la journée, elle répéta. « Ouvrez la porte, ma sœur, que je vois mon tapis. »
Il m'a fallu ouvrir.
« Il est triste, le tapis, aujourd'hui, » m'a-t-elle dit. « Il ne me parle pas. Que lui ai-je fait ?»«
Voyons, madame, ce tapis ne peut pas vous parler.
Croyez votre docteur, qui est votre ami. »
« Ah, il me disait de si jolies choses. »
Un moment après, elle s'effondra sur ce tapis et pleura sur lui, douloureusement. Entrons dans la salle à manger de ces dames. Une pensionnaire, déjà assise, attend leur sein. En voyant sa cliente, le docteur se bouche les oreilles.
« Bouchez, bouchez, cela ne changera pas le fond de votre âme. Ah, voilà ce qu'on appelle des docteurs. Pourquoi, au fait, n'avez-vous point le bonnet d'âne ce matin ?»
Le docteur fait un geste.
« Inutile, ne me touchez pas. Loin de moi, la bête. Moi qui avais en propriété toutes les Russies et le tsar pour régisseur. Moi pour qui Guillaume II envahit la Belgique, afin de m'atteindre plus tôt. » Et de me rendre mère d'un enfant radium. À trois pas, je vous prie, manant, serre, moudjik, nègre, docteur. Et puis enfin, quand allez-vous signer ma sortie ?
Je signerai votre sortie le jour où vous me direz : je me suis trompée, je ne suis pas la femme du roi Chilpéric.
Ah ! Je ne suis pas la femme de Chilpéric.
Si, 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 si. Comment vous appelez-vous ?
Exactement.
Demoiselle, j'ai épousé Chilpéric. Je suis devenue duchesse de Magenta et comtesse de Montalembert. Maintenant, Geoffrey et Saussier sont mes propres frères. Je suis née au Quirinal. Aussi, je dis à Philippe d'Orléans, cousin, t'es une belle branche. Mais vous, vous êtes une tomate, un cochon, hein.
D'authentiques ordures sortent de la bouche de cette femme dont l'allure décèle la bonne éducation. Avant sa maladie, elle eut rougi des termes qu'aujourd'hui elle lance avec conviction. C'est qu'il n'est pas une femme bien élevée dans les oreilles n'ait été frappée dans la rue, à l'office, par les mots interdits. Ces mots, alors refoulés, remontent à la mémoire des démentes. De la bouche des dames du monde tombées dans la folie, on entend les inconvenances les plus ébouriffantes.
« Allons, madame, ce langage ne vous convient pas.
Le son de mon honneur coule, ainsi que celui de ma liberté. Si vous ne me donnez pas ma sortie, je l'aurai à coup de canon. Ah, je sais bien pourquoi vous me gardez. »
Je parie que c'est pour vous rendre visite les nuits.
Toutes les nuits, il est chez moi, oui. Lundi, il s'est amené à 3 heures du matin, habillé en Aramis. Avec sa grande épée, il voulait me transpercer. Heureusement que j'ai lancé mes flits. Mardi, il était habillé en femme, en Carmen. Honte à vous. Effronté tentateur. Mercredi, il était dans la peau du marquis de Priola. Vous pensez qu'une nuit d'orage, rejetant ma vertu, je vous dirais « Viens, mignon !»« Pouah, vous n'êtes qu'un bouc !»
Elle saisit son sac, sort sa boîte à poudre et, dans sa colère, s'enfarine le visage à pleine houppette.
« Eh bien, » crie-t-elle, « je ne suis pas la femme de Chilpéric. Signez ma sortie. »«
Au revoir, madame. »«
Au diable, macro !»